Les Vendeux d'âme, c'est parti. Vous êtes là. Je rappelle que David Lorto, donc toujours en hibernation allemande. Évidemment, à l'actu de la Première Ligue, de la Liga. Vos avis aux uns et aux autres. On va démarrer par le match du soir, là, City Wolverhampton. Julien, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Une victoire tranquille de City. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils reviennent à 4 points de Liverpool. Liverpool avait mis la pression en gagnant samedi à Brighton. Et bah voilà, pendant 36 heures, on a eu un écart de 7 points. Bah, l'écart est revenu à 4 points et on continue cette incroyable course au titre.
À quel moment il pourrait y avoir une variation selon le calendrier là? Qu'est-ce que tu nous vends comme match à suivre qui pourrait faire évoluer la donne un peu là?
Donc je savais que t'allais me poser la question, donc j'ai regardé à l'avance, je savais que...
Ah, c'est marrant, pourquoi tu savais ça?
Daniel a besoin de secrétaire, tu sais, c'est quelqu'un qui gère son agenda de match.
Ah, c'est pas exactement l'agenda de match que j'ai demandé là, Fred, là, c'est...
Une journée où ça pourrait basculer.
Où il pourrait y avoir quelque chose qui se passe, quoi, que Liverpool...
Et Madame Irma, en fait.
Voilà.
Alors, City va enchaîner Arsenal à domicile et Chelsea à domicile au début du mois de février, donc 3 février, 10 février, avec Schalke juste après, le match retour de Schalke en Allemagne juste après, juste avant le match aller pardon de Schalke en Ligue des Champions juste après. Et pour Liverpool en revanche, c'était un tout petit peu plus tard leur premier test entre guillemets. Donc eux, ils ont le Bayern en Ligue des Champions que tu pourrais considérer plus difficile que Schalke, si tu veux. Après, ils ont Manchester United à l'extérieur, c'est vrai. Ouais. Voilà, Manchester United à l'extérieur, mais après le match du Bayern. Voilà, c'est ça, c'est le 24 ou le 25 février.
Tu veux dire que d'ici là, en championnat, ils n'ont pas de gros matchs où on se dit qu'ils peuvent perdre des points?
Non, mais c'est du Crystal Palace, c'est du Bournemouth, c'est du Huddersfield, c'est du Newcastle,
priori,
c'est
des matchs gagnables pour eux.
Ah, d'accord. Voilà, tranquille, exactement.
D'accord. Ok.
Bon, puisqu'on est avec toi, on continue. Julien, tu voulais parler de Liverpool et de sa performance de champion à Brighton.
Ouais, parce que c'était pas très flamboyant dans le jeu, mais c'était très efficace. Ça a été très sérieux. Klopp a dit à la fin du match, c'était notre performance la plus mature depuis le début de la saison. Il dit, on n'est pas les Harlem Globetrotters, on n'est pas là pour vous amuser tous, pour faire le show, pour faire le spectacle. On est là maintenant pour prendre 3 points et entre aujourd'hui et la fin de la saison, c'est uniquement à ça qu'on doit penser. C'est pas à l'esthétique, c'est pas comment on va jouer, si ça va être beau, si ça, les gens vont apprécier. C'est à chaque fois gagner. Presque limite, il l'a pas dit, mais presque limite, peu importe la manière, tant qu'on prend les 3 points, on s'en fiche.
Même si
un penalty de
Mossala.
Oui, mais tu vois, mais à un moment, j'aime le pragmatisme, j'aime le fait qu'il ait dit, ben, nous, on n'est pas les Harlem Globetrotters. La saison dernière, on a fait le show, c'était vachement bien, ça allait à 2000 à l'heure, c'était intense, c'était le hard rock football qu'il aime.
Mais il veut gagner maintenant.
Le heavy metal, mais ils ont rien gagné à la fin de la saison, et c'était pas ça. Et là, t'as senti, c'est vrai, la maturité, tu l'as senti dans la performance où ils ont été un peu bousculés en seconde période, ils sont restés très compacts, très bien en place, ils ont jamais paniqué, ils ont pris les 3 points, et ils sont rentrés à la maison très contents.
Donc, tu vois, c'est intéressant ce que dit Julien et Daniel, tu connais le débat qu'on a tout le temps. Une fois de plus, tu vois, quand on est à l'extérieur ou acteur à l'intérieur, on pense différemment. Parce que Klopp, on peut pas dire qu'il est pas porté sur la beauté du jeu, etc. Il aime ça.
Liverpool, ils instaurent pas ça. C'est pas ça.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est un entraîneur qui a fait des super choses l'année dernière, mais qui a pas gagné. Et il est frustré. Il veut gagner, là.
Mais Liverpool, c'est pas devenu moche. Ça deviendra jamais moche.
Non, parce que non. Il y a encore de la marge.
Ça va rester du jeu, malgré tout, la plupart du temps, très porté vers l'avant. Ce sera pas un bloc derrière.
Mais il y a certains matchs où il va pouvoir s'adapter avec un peu plus de pragmatisme.
Sur 38 matchs, il en fait 8 ou même 10 comme ça, c'est ça, surtout, c'est la proportion.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois,
dans les grandes lignes.
C'est même un entraîneur comme ça, il est amené à penser parfois comme ça.
Et l'année dernière, il a rien gagné. L'année dernière, il fait finale de Ligue des Champions, il perd contre le Real, qui est largement meilleur que lui.
Oui.
Et il perd sur des boulettes de Garnier.
Il perd parce que
sa philosophie de jeu. Il perd parce que le Real est plus fort et parce que Sol Carlos, il lui a fait deux énormes boulettes.
Tu sais pas.
Et parce que
c'est vrai que ça, oui, ça leur a coûté cher.
Arrêtez un peu.
Ce qui est vrai, non, mais ce qui est vrai, Daniel, c'est que dans sa réflexion,
quand même.
Non, mais ce qui est vrai, Daniel, c'est que dans sa réflexion.
Dommage à Sol Carlos, c'était bienvenu.
Cet été, c'est que Klopp lui-même a reconnu qu'il fallait qu'il y ait autre chose en plus du football qu'ils avaient montré l'année dernière.
C'était pas juste en plus, c'est en moins.
Pas comme c'est en moins. Exactement, tu as raison. Voilà.
Mais pas comme c'est en moins.
Barça de Guardiola de l'année où il gagne les 6 titres, il y a eu des match moches où ils ont gagné à la dernière minute.
Voilà. Et c'est pas ça qu'on a retenu. Ce qu'on a retenu, c'est le flamboyant.
Et ben voilà. Mais parfois, il faut être pratique. Il y a des jours moins bien et il faut être pratique.
Et Liverpool n'ira pas plus loin en Ligue des Champions. Liverpool n'ira pas plus loin en Ligue des Champions sans faire de gros matchs flamboyants.
Ouais, ouais,
et ne gagnera pas le titre dans des gros matchs, par exemple, sans faire de Liverpool. Cette année, on retiendra le gros score contre Arsenal, les matchs comme ça. C'est ça qu'on va retenir. C'est pas leur match pourri qu'ils ont gagné hier.
C'est pas un match pourri. C'est un match maîtrisé, qui est difficile et qui est maîtrisé.
Voilà. Mais si t'en fais un et que à côté t'en fais plein des biens, c'est autre chose. Voilà.
Passons maintenant à Manchester contre Tottenham. Tu voulais aussi en parler, Julien.
Ouais, bien sûr. Hein, c'était le gros match du week-end ici en Angleterre hier à Wembley. C'était aussi le premier vrai test pour Solskjaer et pour ce.
Ah bah on en avait beaucoup parlé de ce match. On l'attendait.
Ouais.
Hein.
On l'attendait. Alors il y a plusieurs choses. Il y a la victoire, bien sûr, 1-0, qui est très importante. C'est la sixième de suite en six rencontres pour Solskjaer. Personne, aucun manager dans l'histoire du club ne l'avait fait auparavant. Ça, c'est la première chose. Si tu regardes bien
si
la rencontre.
Si tu redonnes la liste des adversaires en même temps.
Oui, tu basques en face de toi, tu basques qu'on te met devant toi.
Tottenham.
Je pense qu'il y a des entraîneurs de Manchester qui ont déjà eu des calendriers favorables comme ça et pourtant ils l'ont jamais fait.
C'est vrai, tout à fait. Mais si tu regardes le match, on attendait Solskjaer tactiquement. Tactiquement, en première période, son plan de jeu a marché formidablement. Il avait mis Jesse Lingard en faux numéro 9 et il avait mis Rashford sur un côté avec Martial de l'autre côté pour justement profiter des espaces laissés dans le dos des deux latéraux de Tottenham, Trippier à droite et Ben Davies à gauche, qui eux ont joué très haut comme ils le font d'habitude. Tottenham a pris beaucoup de risques dans cette première période et ils ont su exploiter ces espaces tellement bien, Manchester United, dans cette première période, sur le but bien sûr avec la passe fabuleuse de Pogba pour Rashford, mais toute la première mi-temps, dès qu'ils ont récupéré le ballon, ils ont joué tout de suite long
Martial
dans ces espaces-là, des deux côtés. Martial
ils
souvent,
ont joué
Lingard,
comme une équipe qui est dominée, qui joue en contre et qui a de l'habileté aussi bien dans la passe que dans les courses vers l'avant. Après, à côté ça, Manchester United dans ce match-là, je les ai vus. Bon, très bien. Le schéma tactique, ouais. Enfin, de Réa, quoi, surtout.
Simone,
non, mais laisse-moi venir, Daniel, tu m'as pas bien écouté, soit tu m'as pas laissé finir. Je t'ai parlé de la première période où son plan de jeu marche à merveille. De Réa, en première période, il y a zéro arrêt. Il y a aucune frappe cadrée Tottenham, il y a zéro arrêt de Réa. En seconde période, en revanche, là, tu as raison. C'est le match de De Gea. C'est De Gea qui les sauve. Ils peuvent rejouer la deuxième période 9 fois. Tottenham la gagnera 9 fois. Ils marqueront 1, 2, 3 ou 4. Effectivement, tu as raison. Donc, De Gea, il fait 11 arrêts dans cette deuxième période. C'est-à-dire plus que n'importe quel autre gardien de Première Ligue sur tout un match cette saison. C'est pour vous dire à quel point il avait été exceptionnel. Alors, le débat ici en Angleterre, c'est beaucoup de tirs étaient sur lui.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai. Il y a vraiment
une grande habileté des attaquants.
Exactement. Il y a un manque d'efficacité des Spurs aussi là-dessus.
C'est sûr. Mais tu peux aussi dire qu'il est très bien placé, que son jeu de jambes est parfait à chaque fois. Le 1 contre 1 avec Dele Alli, par exemple, où il se met comme un gardien de handball.
Il reste debout longtemps. C'est vrai.
C'est parfait.
Et De Gea, ça lui arrive de fournir des énormes prestations, comme ça lui arrive parfois de passer au travers et de faire des boulettes, comme on l'a vu avec la sélection. Il a un peu de tout dans son jeu, De Gea.
Il est plus souvent bon, quand même.
Évidemment, sinon il serait pas Manchester United. Mais il lui arrive quand même de passer complètement au travers, hein.
En équipe nationale,
il est plus souvent mauvais que bon.
Et terrible. Il fait un mondial horrible.
Oui, bien sûr.
Je me souviens plus exactement de la statistique, mais enfin, il avait fait zéro arrêt et il avait pris 6 buts.
Déjà contre le Portugal, c'est une passoire déjà.
Si les attaquants en équipe nationale.
Non, mais c'est une question que je vais poser à Julien, parce que on sait que par rapport à l'Espagne, on sent qu'il est très tendu parce qu'il était souvent critiqué. Il y a eu son transfert raté au Real Madrid, faut pas l'oublier quand même, pour une histoire de négociation qui a pris 2 minutes de trop et qui n'a pas permis d'inscrire à temps De Gea un 31 août. Comment il est par rapport à la sélection espagnole? Est-ce qu'il en parle, Julien, en Angleterre? Parce que sincèrement, on n'a pas l'impression de voir le même joueur, quoi.
Ouais, ça c'est vrai, tout à fait. Alors que il a une meilleure défense avec la sélection, enfin en tout cas la plupart du temps qu'avec Manchester United, je peux te confirmer ça. Mais c'est vrai qu'il en parle très peu. Je sais pas où est le problème. Je sais pas si il a une appréhension quand il rejoint la sélection, s'il y a trop de pression là-bas. Je sais pas d'avoir pris la place d'Iker Casillas. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'avec United, c'est un gardien complètement différent. C'est quand même les 4 dernières années, il a été élu joueur de la saison par les supporters parce qu'il leur a gagné des points à chaque je crois que la saison dernière c'était 15, il a, à lui tout seul il a gagné 15 points pour Manchester United la saison dernière par exemple, un truc comme ça. C'était, l'année dernière il a été incroyable, il a marché sur l'eau, c'est lui qui leur permet de finir deuxième. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre ce contraste entre ses performances en sélection et ses performances en club.
Alors, tout à l'heure, je vous demanderai chacun vos tops et vos flops du week-end, bien sûr. Et je pense qu'on va parler de Nasri à un moment ou à un autre. Mais tout de suite, on va passer à Fred Hermel après une petite pause. Je rappelle que le 32-16 est là, hein, si vous voulez poser vos questions à Drôle de Dame. J'ai un message de Ronan qui me dit « Est-ce que vous pouvez nous remettre la musique des Drôle de Dame, s'il vous plaît ? Quand même, ça nous manque. » Bah tiens, voilà, ça
ah,
c'est
ouais,
calme.
C'est vrai, elle est bien.
Ouais, c'est vrai. Je l'ai oublié ce soir.
Qu'est-ce que c'était bon, ça ?
Mais tu sais que les vraies, c'est bah, elles sont là, quoi, avec nous. Hein.
Ah ouais, non, bien sûr. Enfin, des nouvelles. Hein.
On a mieux vieilli en plus, nous.
Mais d'ailleurs, dans les drôles de dames, il y avait eu des changements. Hein. Au début, il y avait Farah Fawcett, elle est pas restée. Donc, ouais. Même dans les drôles de dames originales, dans les vraies, il y avait eu des changements.
Moi, c'est Sabrina, là, la petite brune qui plaisait.
Ah, Jennifer Lawrence, c'est plus, comment elle s'appelle, celle qui a remplacé Farah Fawcett, l'autre blonde, là.
Oh, je suis incapable de te dire.
Ah, Julien Laurent, c'est un peu elle.
Oh, je sais pas.
Il lui ressemble. Mais non, pas la nouvelle version de Drôle de Dame, la ah série. Mais
moi, je suis
déjà l'autre, il a Cameron Diaz.
Il a raison, la seule Drôle de Dame barbue, c'est pour Simonet.
Ah, comment elle s'appelait, Cheryl quelque chose.
J'ai trouvé ça, Daniel.
Cheryl Ladd.
C'est pas possible que ce soit ça.
Cheryl Ladd, ah ouais, je me souviens. Ah ouais, j'étais plus, je vais bien aussi.
Mais vrai, il aime tout.
Bref, la deuxième blonde,
il fait ce qu'il peut.
Dans quelques instants, les de retour, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, bien sûr.
La première Sabrina avait changé aussi.
Les Drôles de Dame sont là jusqu'à minuit. À tout de suite dans l'after.
Chaka et Smith. Wow.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Les Drôles de Dame plus Pierre Ducrot plus Daniel Riolo. Remets-moi un peu de générique, Paul. Voilà.
Donc, j'ai envoyé. J'ai regardé pendant la pub.
Oui.
Fred, la seule drôle de dame qui n'a pas bougé
Sabrina.
Dans le
série.
Non, c'est Kelly Garrett. Jacqueline Smith.
Ah, la brune avec les. Ah oui,
donc,
avec ses
longs cheveux. C'est toi. Elle, c'est toi. Les autres ont toutes bougé dans les drôles de dames sauf elle. Donc toi, t'es un peu elle. Voilà.
C'est pas la plus belle, hein.
Oui, elle était bien. Attends, avec Kelly Garrett.
J'ai envoyé un texto à Eric Dimeco comme convenu en lui demandant.
Ah, il dit quoi?
En lui disant, Eric, on en parle dans l'after. Pour toi, est-ce qu'hier, il y a faute d'Ocampos? Réponse d'Eric, non.
Et voilà. Mais il connaît rien au foot, Eric. C'est ça?
Comme nous.
Voilà. Comme nous, il ne connaît rien.
On écoute son rêve. Voilà,
on est d'accord, Eric.
Heureusement qu'il y a du gars quand même pour.
Bah lui, il connaît.
Bah oui, voilà, pour nous remettre.
Je précise qu'Eric nous dit ça de façon totalement impartiale.
Bien sûr.
Impartial, tout bien sûr.
Non, franchement, là-dessus, lui, il n'est pas genre parce que c'est l'OM. Non, pas
dire tu veux qu'on lui donne un t-shirt de l'after. Je ne soudoie pas avec ça, Eric.
Il mange pas de ce pain-là, Eric.
Attention, Fred Hermel a un avis tranché. Parce que c'est un peu le principe de Fred Hermel. Il a toujours des avis tranchés sur tout.
Vas-y, Kelly Garrett, enchaîne.
Et ce soir, il en a un sur l'Athletic Bilbao. Fred, on t'écoute.
Eh ben oui, les amis. En Espagne, on a terminé les matchs aller ce week-end. Et quand on regarde le classement, même s'il y a eu une très belle victoire de l'Athletic Club de Bilbao, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'Athletic Club, face au Séville FC, avec notamment un doublé d'Iñaki Williams, son deuxième but est
ce qui en soi est une surprise, puisque Séville, non?
Ben en plus, voilà.
On peut dire ça ou on peut pas le dire.
On peut dire c'est une surprise. On peut dire que c'est une très belle surprise pour l'Athletic. Iñaki Williams qui a fait un compte de 55 mètres absolument fabuleux. Mais même si cette équipe de l'Athletic vient d'aligner deux victoires de suite, quand on regarde à la fin des matchs allés, ils sont exactement à 3 points seulement. Ils n'ont que 3 points d'avance sur le premier relégable. Et quand tu sais que le deuxième relégable, c'est Villarreal, on peut imaginer que Villarreal va remonter aussi d'ici là. C'est-à-dire que aujourd'hui,
ils se donnent de l'air quand même en étant 15e, là, non? Un peu?
Mais tu te rends compte, il y a tous les matchs retour.
C'est serré, Fred. Hein. C'est serré jusqu'à Valence, quasiment.
Mais l'Athletic Club à 3 points de la relégation à la fin des matchs allés, mais vous rendez pas compte, et c'est là mon avis tranché, c'est que c'est un truc qui fait peur à tout le monde, et je peux vous dire qu'en Espagne, les gens qui aiment le foot, et ils sont nombreux, étaient plutôt contents de voir l'Athletic Club gagner, parce que, je le dis sincèrement, ce serait un drame pour le football espagnol que l'Athletic Club descende en deuxième division. Pour une raison très simple. La première, déjà, c'est que ce serait un événement considérable, puisque seul le Barça le Real et l'Athletic Club ne sont jamais descendus en deuxième division de leur histoire. Donc ce sera un événement considérable. Et puis il y a ce côté romantique. Moi je suis un vieux romantique, hein, c'est pourquoi je suis toujours célibataire. Le romantisme est nécessaire, ouais. Et je pense que dans ce football ultra globalisé où quand même les identités sont parfois extrêmement diluées, d'avoir cet Athletic Club qui reste un club qui appartient à ses membres, à ses socios, hein, où le président est élu, un nouveau président qui est élu il y a 15 jours d'ailleurs, et avec cette philosophie de ne faire jouer que des Basques ou assimilés, eh ben je trouve que ça reste un ovni dans le football actuel, et que simplement pour une certaine idée de ce qu'on peut faire du football à l'ancienne, de voilà, ben je pense qu'il serait nécessaire que l'Athletic Bilbao continue sur la toute petite amélioration qu'ils viennent d'avoir et qu'il reste en première division. Voilà, ouais. Parce que ces clubs où qui démarrent où il y a pas un mec du pays, ben moi je déteste. Là t'en as 11 du pays. Alors il y avait Laporte avant, donc ouais, sur l'effectif t'avais un français, il n'avait pas un espagnol, mais Laporte avec assimilé basque. Donc moi j'aime bien, il y a des gens qui trouvent ça raciste, moi je trouve ça très bien.
Moi c'est ce que j'allais dire, on préférait l'inverse plutôt, hein, que des clubs qui ferment leurs portes, enfin, en tout cas qui manquent d'ouverture.
Non mais c'est-à-dire que c'est un club qui a une, qui a une vraie philosophie.
C'est chiant.
Non mais il y a un club qui a une vraie philosophie. Non mais j'entends, il y a quelqu'un qui a pas ouvert son micro, je pense.
Rigole, Fred, il est jamais difficile, son genre c'est celle qui veulent.
Ah oui, mais parfois il faut être exigeant, et en football je suis assez. Et moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Bilbao est très différent du reste des clubs dans le monde.
Tous les gens qui aiment le foot aiment bien Bilbao, bien sûr. Oui, il y a un charme un peu suranné. Oui, bien sûr.
On est d'accord. Et franchement, hier soir il y avait
400 buts de Messi.
Fred. Eh ben voilà, vous êtes tombés dans le piège, les mecs. Ah ben je suis content. Ça y est. Les mecs, ils sont romantiques.
Moi j'avais une question.
Laissez-moi terminer.
Pas romantique, Messi.
Mais attends deux secondes. Le truc, c'est, tu vois, ce qui m'énerve, c'est quand tu dis, tu parles que du gros équipe. Là, je change de sujet, on me dit, allez, on passe à autre chose. Et ben voilà, vous êtes tombé dans le piège.
Mais pas du tout.
Moi, j'avais une question pour toi.
Bilbao, on aime bien. C'est bien.
Non, mais j'ai pas fini sur Bilbao
parce que j'ai une question à poser à Julien Laurence, une question transfert à ce niveau-là.
Non, mais tu peux être inquiet pour Valence aussi, parce que Valence est 11e et à 4 points de Villarreal aussi, quoi. Ouais. C'est super serré, cette ligue.
Il a pas envie d'être inquiet pour Bilbao, c'est pas chier. Il a pas envie d'être inquiet pour Valence.
Moi, si Valence descend en deuxième division, ça sera un club important qui descend en deuxième division. Mais ça sera pas une idée qui descend en deuxième division. Vous comprenez la nuance, les mecs?
L'idée d'un club qui ne veut pas d'être étranger.
Question pour Julien.
Alors Julien, mon ami, comme l'Athletic ne va pas très bien, ils sont en train de faire revenir des joueurs qui étaient partis, histoire d'essayer d'assurer la survie en première division. Ils ont fait revenir Ibai Gomez qui est revenu d'Alaves, qui est l'une des belles équipes cette année en Liga, et on parle beaucoup d'un possible retour de Fernando Llorente qui est actuellement chez les Spurs. Est-ce que tu le penses possible ou pas?
Je pense que c'est possible, effectivement. Il joue pas beaucoup ici, vu la concurrence à son poste.
Il est rentré hier pour faire une ou deux fautes.
Voilà, c'est ça. Mais il a fait quand même quelques déviations de la tête assez intéressantes. Il apporte quelque chose, tu vois, si tu joues sur ses forces. De différent. Et c'est pour ça que je pense que Pochettino serait plutôt contre l'idée de le laisser partir, même s'il ne fait pas jouer beaucoup. Mais ce serait une belle histoire, que ce soit Javi Martinez ou Llorente qui rentre et aider Bilbao, ce serait beau quand même. Moi, j'ai une question pour toi aussi, transfert. Comment ça se fait qu'Iñaki Williams est toujours à Bilbao?
Ah bah parce que c'est très dur de partir de Bilbao, parce qu'ils déjà ils sont très bien payés, c'est un club riche, c'est un club qui est très très bien géré depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de public, hein, tout ça, c'est un club très rentable, et puis il est très attaché. Alors Iñaki Williams, c'était le premier joueur noir de l'Athletic à marquer un but, il est né à Bilbao, donc c'est-à-dire que même s'il a des parents qui sont qui sont africains, je me souviens plus exactement de quel pays ils viennent, c'est de l'Afrique anglophone, il est né à Bilbao, donc il est considéré comme basque, donc il peut jouer à l'Athletic Bilbao. C'est un super joueur, mais justement il est très très attaché à ce club parce que c'est un club attachant. Donc et c'est vrai qu'en général, Llorente, Javi Martinez, ça se passe pas très bien en général quand on quitte l'Athletic. C'est aussi le pendant de cette forte identité qu'il y a.
Alors reprenons l'actu espagnole avec Benita qui est là au 32-16, un fidèle de l'After. Salut Benita.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Bonjour. Salut Benita.
Salut. Vous allez bien?
Ça va et toi?
Très bien. Ça va, je suis là, mais je suis triste.
Et pourquoi donc?
Parce que Fred Hermel est un excellent journaliste, je le sais, tout le monde le sait, c'est un très très bon journaliste. Bon,
certains doutent, mais il ne devrait pas.
Et bon, il supporte
le problème, c'est qu'il va y avoir un mec qui va arriver dans ta phrase.
Il supporte des clubs assez douteux, mais c'est pas grave. Mais
ah, le Racing Club de Lens a encore perdu ce soir, tu sais, donc je suis pas d'humeur, mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur.
Mais j'aimerais dire quelque chose, et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Bon, le meilleur club du monde, qui est à mon sens le FC Barcelone, fait quelque chose encore une fois de magique cette année. C'est-à-dire que encore une fois, il gagne 3-0. Encore une fois, but du meilleur joueur du monde. Encore une fois, on dit oui, le Barcelone, toujours la même chose, le même style de jeu, ça progresse pas, on s'ennuie, on s'endort. Mais à l'arrivée,
bon, c'est pas du tout le même
Barça, on s'ennuie.
Non, j'ai pas dit que vous l'avez dit, mais j'entends beaucoup de gens dire.
Ah bah oui, mais ouais, ces gens-là n'écoutent pas l'after.
Tout entendre dans la vie. Hein.
Attends, excuse-moi. Dans l'after, on a bien expliqué l'évolution du Barça des dernières années depuis Guardiola. Le Barça aujourd'hui a beaucoup plus d'alternatives dans son jeu que du temps de Guardiola.
Moi perso, ça m'a jamais ennuyé. Hein, mais bon.
Je ne vous incrimine pas. Là, je dis ce que j'entends, je n'incrimine personne. Tout ça pour dire que, alors oui, ils n'ont pas 12 Ligues des Champions comme certains, ou je ne sais pas combien, ou 13 ou 1000 ou 1 milliard, ou certains, voilà. Mais ce que je dis, c'est que, voilà, en termes de jeu, d'année en année, je trouve qu'ils sont toujours là, ils répondent toujours présents. Et j'aimerais faire un petit focus, moi, personnellement, encore une fois, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette équipe, on parle plus d'un certain Real de Madrid, je sais pas pourquoi.
Bah, déjà, c'est Real Madrid, et puis tu sais, le Real, le problème qu'a eu le Real ces dernières années, c'est qu'il est allé tout le temps au bout en Ligue des Champions, donc c'est vrai qu'on a tendance à parler des équipes qui arrivent en finale. Bah, c'est l'actualité, tu vois.
C'est pas de ta faute, ouais. Si.
Non, mais c'est pour expliquer un petit peu pour, comme il comprend pas bien. Mais c'est vrai, donc j'attends ton focus.
Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression.
Non, pas du tout. Mais non, mais il faut expliquer déjà, tu vois, parce que si le Barça est éliminé en quart de finale.
À chaque fois.
Si le Barça est éliminé en quart de finale par un but de Manolas, je suis désolé, on peut pas parler du Barça en demi-finale avec des champions.
On a parlé beaucoup de Manolas, quand même.
Il s'est venu une idole en Espagne, Manolas, hein, tu sais.
Après, ce que je veux vous dire, c'est que oui, bon, le Barça, ils peuvent faire de mauvais matchs comme n'importe quelle équipe. Mais là, je voulais mettre un point d'honneur à dire que, encore une fois, ils contrôlent l'Espagne. Ils contrôlent. Enfin, c'est oui, en Europe, c'est pas spécialement leur fort, ou ils ont pas cette emprise que le Real Madrid.
Laisse-les, cette année, ils sont encore là et ils sont dans les favoris. Hein.
Ah bah oui.
Non mais parce que c'est pas parce que je suis barcelonais que j'assume pas. Je veux vous dire la vérité, j'ai plus peur d'un Real blessé en Ligue des Champions qu'un Real qui va bien. Je m'explique. Parce qu'un Real blessé en Ligue des Champions, ils auront justement envie de montrer qu'il leur reste une compétition, qu'ils sont bien là, et s'il y a bien une compétition qu'il faut pas leur enlever, c'est celle-là. Et ça se voit bien, regarde, ils sont blessés, en attendant, ils sont, je crois, premiers de leur poule, ou voire ou
second. Mais bon, là le Real va pas bien du tout, hein, donc tu sais qu'ils sont même pas rassurés par rapport au match contre l'Ajax, quoi, déjà avec tous les blessés qu'il y a, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi c'est une réflexion que je me suis souvent faite, comment avec Messi, le Barça a pu laisser le Real gagner 4 des 5 dernières Ligues des Champions. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre.
Bah, parce qu'ils en ont gagné avant, hein.
Ah ouais, mais là, ils en ont gagné.
Ça dépend comment tu prends. Si tu fais comme Jean-Michel Aulas, qui analyse le passé en comptant par 5, par 10, par 7, par 8, si on prend les 10 dernières, les 12.
Le Real a plus de Ligues des Champions avec Messi au Barça. Non, le Real a plus de Ligue des Champions avec Messi au Barça que le Barça avec Messi au Barça. C'est ça qui est incroyable. Mais tu sais, c'est pas une provocation, c'est vraiment un débat.
Le Barça, tiens, il a dit quoi là ?
Moi, j'ai compris.
Moi, j'ai lâché après.
Le Real a plus de Ligue des Champions avec Messi au Barça que le Barça a de Ligue des Champions avec Messi au Barça.
Combien ils ont gagné le Barça ?
4.
Le Real, je veux dire.
4, Barça 3.
Non, mais
2014 et les 3 dernières.
Non, mais depuis que Messi est au Barça.
Et Messi là, 2015, 2011 et 2009, 3. D'accord.
4-3. Comprends, avec Messi au Barça, c'est ça.
Et 2006, il n'est pas encore.
C'est pas le Barça de Messi.
Oui, j'ai compris que tu comptais comme. Oui, d'accord.
Merci beaucoup.
Mais c'est un vrai débat. C'est un peu des médias sur le Barça.
Oui, mais après, il n'y a pas que Messi et Ronaldo d'un côté. Il y a aussi l'équipe qui va avec. Il y a plein de choses.
Après, vous parlez de Messi, vous n'avez pas fait les noms de Ronaldo jusqu'à maintenant. Donc, de l'autre côté, il y avait
Ronaldo. Je te laisse. De l'autre côté, c'est une sacrée équipe avec Ronaldo qui est énormissime.
Dis-moi juste, vous avez fait les totaux début, c'est donc 400 en Liga.
Ouais. C'est 0,92 buts par match.
Et au total, toutes compètes confondues.
Non, il a mis. Tu veux comparer à Ronaldo avec les autres championnats qu'il a fréquentés.
Mais je veux comparer. Ensemble de la carrière, toutes compètes confondues. Nombre de marques.
Non, ça j'ai pas fait.
Ah, mais si, non, je sais pas.
Je vais regarder.
Je sais que si on compte dans le championnat,
c'est qui les recordman?
Je sais que si on compte le passage en Angleterre et en Italie de Ronaldo, il est devant Messi, les buts en
c'est
championnat.
Qui,
il est
à Julien, 409, en Angleterre, le mec qui a mis le plus de buts, parce que 400, c'est donc le record, c'est ça, Fred?
Pardon, le record c'est Messi 400 en Liga.
400 en Liga, donc en France.
Personne n'a jamais marqué plus de buts.
En France, le record, on doit être à 200, un peu moins de 250, le record, c'est ça? De Leonis? On doit être à ça?
El Goleador.
299.
De Leonis, c'est 299? Oui. Ah, je pensais 239. 299?
Bah, parce qu'il est manqué un pour avoir un chiffre rond.
Ah, d'accord.
Que en championnat, hein.
Oui, que en championnat. Et en Angleterre, en Italie, vous savez pas qui c'est, les gars?
Alan Shearer chez nous, 283, je crois.
Alan Shearer.
290, peut-être, ouais.
Alors, Messi.
Messi. Non, mais c'est quand même énorme.
Messi, en tout, c'est 640 buts. Cristiano Ronaldo, en tout, c'est 674 buts.
Ouais.
Et aucun des deux n'est numéro 9.
Voilà. Non, mais... C'est quoi la différence? Ouais. C'est combien?
640 Messi, 674.
C'est incroyable.
Est-ce qu'il y en a un qui va atteindre les 1000? Ou est-ce que c'est trop tard?
Non, c'est pas possible.
Ah, il faudrait encore 15 ans.
Si on compte les matchs que Ronaldo fait dans le jardin avec son fils et Messi pareil.
Bah, je vous signale que Pelé, dans ses 1000, il y a les buts marqués à l'entraînement. Hein.
Pelé, il mettait les buts dans le jardin.
Voilà.
dans le décompte, il y a eu un peu de tout.
Ouais, il y a eu un peu
de tout. Il y a eu le cosmos sur les terrains européens en vert. Il y a eu un peu de tout. Il y a quand il faisait la série de pénaux en partant du milieu de terrain. Comment on appelle le pénaux quand on part du milieu là?
Le hockey sur
glace. Non, tu sais, quand le péno, comme ils font au parc, là, le challenge avec les gamins.
Il y a un nombre,
aux États-Unis, dans le championnat américain, pour départager, parce qu'ils aimaient pas les matchs nuls, on partait du milieu de terrain à la fin, et c'est le péno, au lieu de faire un péno, il y a un nom à ce exercice-là.
Shootout.
Le?
Shootout.
Ah bon?
Non, c'est quand tu frappes en dehors du but.
Là, c'est pas le challenge orange.
Une petite pause et on revient. L'Italie, encore un peu d'Espagne et d'Angleterre, bien sûr. Au programme, tiens, dans le désordre, on va parler de l'Inter, on va parler de la Supercoupe italienne, on va parler de Griezmann, on va parler de Nasri. Bien sûr, d'ici minuit dans les drôles de l'âme. À tout de suite.
RMC, Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Simonet Rovera, les drôles de dames, Fred Herbel, bien sûr, et Julien Laurence. Oui, on me demande sur Direct Studio, t'as pas expliqué l'histoire du 6 de Roland. Voilà, passe au 6, pourquoi? Et on en reparlera d'ailleurs jeudi, vous verrez pourquoi. Parce que Roland explique qu'un gardien de but ne doit jamais faire une passe au numéro 6. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de faire une passe à un numéro 6 quand t'es gardien, quand tu rentres.
Ouais, enfin, ça arrive tellement fréquemment.
Oui, mais maintenant, c'est très, très fréquent que les centraux écartent justement.
Et dans l'idéal, c'est aller chercher, ton 7 et ton 11.
Tant que c'est pas Mandanda qui relance sur Zambo Anguissa en finale de l'Europa League.
Ouais, Gustavo qui lui remet le but direct.
Parce que Mandanda sur Zambo Anguissa, effectivement.
Par contre, Casillas sur Makelele.
C'est Griezmann, c'était peut-être vrai à l'époque du coach, mais quand il jouait, pas quand il entraînait.
Peut-être. Bon, Simonet. La Supercoupe d'Italie, tout à coup, arrive mi-janvier.
C'est cette Supercoupe.
Alors, la Supercoupe d'Italie, parfois, c'est en Chine. Parfois, c'est mi-janvier. Ils vont la faire sur la
C'était
Lune.
C'était en décembre, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, victoire du Milan au pénalty face à la Juve. Et là, c'est en janvier. Déjà, il y a eu une polémique énorme en Italie pour cette Supercoupe parce que en Arabie Saoudite à Jeddah il y a les femmes qui peuvent rentrer seulement en certaines zones du stade, donc ils n'ont pas accès à tous les stades. Du côté politique,
il y a quelques mois, ils n'avaient pas accès du tout au stade.
Voilà, les politiques ont dit c'est une honte.
une progression déjà.
Par contre, le monde du football italien a fait comprendre que depuis janvier seulement,
quand il y a de l'oseille, les hontes sont relatives.
Alors déjà ça, avec l'oseille, c'est important parce que ils ont pris un contrat énorme, la Serie A, qui va jouer 3 des prochaines 5 finales à l'Arabie Saoudite.
En gros, c'est quoi la polémique? Parce qu'ils sont allés jouer un match dans un pays où les femmes... Hein,
voilà.
Ah, mais quand
ils vont aller jouer.
Oui, mais c'est une polémique politique. Le monde du sport a dit, écoutez, l'Arabie Saoudite veut faire des pas en avant. Nous, on a demandé aux plusieurs pays qui voulaient accueillir. L'Arabie Saoudite a gagné. Elle a
donc
dit qu'elle va développer les
football. Donc, un sponsor du Qatar sur le maillot ou le droit des femmes au Qatar
monde,
n'est pas...
Il y a un Coupe du Monde en Qatar.
Oui, mais excusez-moi, c'est comme la Coupe du Monde au Qatar. C'est-à-dire, donc, mieux vaudrait ne jamais aller en Arabie Saoudite plutôt que d'y aller pour faire avancer les choses.
Mais j'ai dit, c'est une politique politique. C'est une polémique qui a fait... On a fait beaucoup de une des journaux, etc. Mais parce qu'il y avait plusieurs personnages politiques, premier ministre, mais même l'opposition, qui étaient contre cette idée et disaient qu'il faudrait... Ils ont même demandé à la RAI, qui va diffuser le match, de ne pas les diffuser. Donc on est allé un peu loin. Par contre,
en effet,
je pense que ça peut être important d'être l'Italie qui cherche d'aider un pays qui, attention, est très riche et c'est le premier partenaire commercial de l'Italie à Moyen-Orient. Donc, si toutes les entreprises peuvent faire leur business là-bas, pourquoi pas les footballs?
Ouais. Je trouve que vous me permettrez toujours de croire que c'est effectivement pas la Super Coupe d'Italie qui va faire avancer les choses
c'est
là-bas.
Mais voilà, mais comme c'est
le
football...
Le droit d'ingérence, déjà... Je suis pas sûr que le rôle du football, ça soit de faire avancer les choses.
Mais ça peut aider.
Ce que je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie, parce que là, on va essayer de défendre un petit peu le football, si tu me permets, Simonet. On accuse souvent le football de plein de choses, alors que il y a plein de trucs qui passe quand c'est des entreprises, etc., quoi. Donc à chaque fois ça gêne pas du tout quand c'est une multinationale mais là le football, les salauds de footballeurs, ils n'ont pas de conscience, etc. Je trouve que la polémique est un petit peu ridicule.
Je suis d'accord 100% pour
toi. Je suis sûr que tu manges des côtelettes en or.
S'il pouvait, il en mangerait.
C'est des entrecôtes.
Il a pas encore les moyens.
Moi, je suis plus entrecôte que côtelette. Faut bien reconnaître.
Mais il mange de la viande de qualité à Madrid. Je peux en témoigner, même s'il n'y a pas un filet d'or dessus.
Ah ouais, c'est clair.
Tu voulais nous parler de la Coupe d'Italie. Alors, on a changé la Coupe d'Italie. Qu'est-ce qui se passe là?
On a changé certaines choses. C'est-à-dire sur un niveau de. Il y a un tirage s'il y a deux équipes de la même série, donc c'est pas toujours l'équipe mieux placée la saison d'avant qui joue à domicile. Donc ça donnait quelques frissons en plus sur certains matchs, comme la Juve n'a pas joué à domicile mais a gagné. La chose un peu plus moche pour les spectacles, pour ceux qui vont toujours des surprises, c'est que tous les favoris ont gagné. Donc dans les huitièmes des finales, on aura les clubs qu'on attendait ce soir, la Roma.
En Italie, on est toujours pour le petit comme en France ?
Non. J'ai l'impression que non, on attend toujours, parce qu'il n'y a pas vraiment des groupes, des vrais petits. C'est arrivé d'avoir une équipe de troisième division en demi-finale. C'était l'Alessandria, il y a quelques saisons, il y a 2 ans. Mais généralement, la Coupe d'Italie se réserve aux grands, et ce sont les grands qui avancent. Et ce soir, victoire de la Roma face à l'Entella. 4-0 et but de Pastore.
Tu voulais, évidemment parler d'Higuain.
Oui.
Parce que t'as un avis tranché sur Higuain s'il part à Chelsea.
Oui, aussi parce que l'actualité de ces derniers jours, mais je dirais même de ces dernières heures, parle d'un Higuain qui a parlé avec ses dirigeants en disant qu'il prend vraiment en considération l'idée de partir à Chelsea et qu'après cette super coupe, il faudra parler à nouveau. Donc, les matchs de mercredi, 18h30, ça pourrait être les derniers d'Higuain avec Milan. Moi, j'ai dit que Higuain fait une énorme erreur et c'est peut-être son pire choix de la carrière. Pas quitter Milan, mais les quitter comme ça, en ces moments de la saison, après ce que Milan a misé sur lui, après ce que lui voulait montrer au Milan. Et je vais même plus loin, je dirais même qu'il est lâche s'il quitte Milan en ces moments de la saison. Parce que oui, Milan ne lutte pas pour les premières places, mais il est quand même cinquième et lutte pour aller en Ligue des Champions. Parce que Chelsea, oui, il va jouer à l'Europa League, c'est pas un club qui lui permet d'aller gagner la Ligue des Champions cette saison, c'est pas un club qui va jouer les titres. Oui, la Première Ligue, c'est un championnat plus riche, mais les contrats qu'il lui offre, c'est quand même les mêmes qu'à Milan. Et s'il est arrivé à Milan pour montrer quelque chose à la Juve qu'il a mis à la poubelle quand il est arrivé Cristiano, c'est pas important après 6 mois pour aller à Chelsea qu'il montre quelque chose. Même si à Chelsea, il y a un peu son père, c'est lui qui considère un peu comme un père à niveau d'entraîneur, qui c'est Sarri. Il a eu une saison à Naples avec qui il a fait 36 buts en 35 matchs déjà.
Vous êtes d'accord, Higuain est à lâche s'il part à Chelsea, comme le dit Simonet?
Bon, là, je trouve que s'il va
c'est dur parce que c'est un joueur qui joue moins, pourquoi il partirait pas? Bah, il joue toujours, il est titulaire. Il est les joueurs qui, sur lesquels
oui,
Milan.
Mais il est plus.
Le Milan a bâti cette équipe sur Higuain. Après, Higuain, maintenant, veut partir. Milan veut pas les vendre. Mais lui, qu'on peut dire, demande aussi de partir.
Tu vois ce que je veux dire, c'est pour moi pas l'avenir.
Il a jamais été.
Laisse-le tranquille, laisse-le non.
Tu veux l'ami pas de Fred Hermel.
Non, mais sûr que, enfin, moi je suis un peu d'accord avec avec Simonet quoi. Higuain en plus son papa, l'ancien Brestois. Franchement, il aime bien faire le business et tout ça. Il est très bien derrière pour manipuler les choses, etc. Je trouve qu'on en fait toujours beaucoup avec Higuain et c'est un bon joueur, mais ça n'a jamais été un grand joueur et ça ne le sera jamais.
Si jamais il répond un joueur à Domenech, vous nous prévenez, hein. Non, parce que Domenech l'avait convoqué et on n'a toujours pas la réponse.
Et c'est pour ça que le père pour le Higuain,
lui,
c'était
pu,
extrêmement bien servi de ça pour négocier son salaire au Real Madrid. Il avait été très fort, le père. Hein. Il avait bien utilisé Domenech. Là, c'était magnifique.
Tu penses que ce serait pas mieux pour le Milan? De le voir partir.
En ce moment de la saison, tu peux pas les remplacer. Ils ont dépensé
déjà. Et le petit jeune, là, certains disent qu'ils aimeraient bien le voir jouer à sa
place. Coutrone, cette année, il a marqué 9 buts. Higuain, il est à 8.
Coutrone. Ah, pas comme Crouton.
Non. Coutrone. Bah, cette année, il a déjà marqué plus de buts. Oui. Il a déjà marqué plus de buts qu'Higuain, c'est vrai.
Bah, mais il faudrait
et Higuain, pour vous dire, s'il est arrivé pour montrer quelque chose, il a marqué des buts face à La Spal, à Cagliari, à Chievo,
c'est pour ça que je te dis, c'est pas mieux pour le Milan s'il s'en va.
Janvier, tu dois aller chercher.
Simonet nous en parlera toutes les semaines.
Simonet a un sens de l'honneur, messieurs dames.
Voilà,
il a un sens de l'honneur, mais il a retourné sa veste. Simonet, t'as un sens de l'honneur, mais t'as quand même bien retourné ta veste sur Higuain. Je le rappelle de nos premières joutes à son sujet, tu le défendais.
Écoute, à la Juve, il a fait des bonnes choses. Après,
Simonet a un sens de l'honneur, sauf à mon petit gazon, où là, il est capable des pires crasses.
Sachez-le. Là, c'est pas des tout vœux. Pas vraiment.
Des nouvelles de Samir Nasri, Julien, pour conclure.
Ah. Pour son retour en première ligue.
Ah, ça y est, on
contre... Ouais, non, je vous disais, c'était mon top du week-end. Première titularisation, enfin premier match même en première ligue avec West Ham. Ça faisait un an qu'il avait pas joué, c'était son retour en première ligue bien sûr. Le destin avait fait que c'était contre Arsenal en plus, où il avait passé 3 saisons. Et ouais, moi je trouve qu'il a été bon, il a joué simple, il a joué en une touche, en deux touches, il a pas trop porté le ballon. Physiquement, tu sentais qu'il était un petit peu court. On avait parlé, Pierre, ensemble samedi soir, c'était. Et voilà, mais je trouve c'était vachement encourageant pour une première en première ligue. Donc bravo à lui, si après mentalement dans son attitude il reste aussi positif, parce que c'est ça le problème avec Samir Nasri,
quel gâchis.
Et ben je pense qu'il pourra leur rendre vraiment des beaux services dans la créativité qu'il pourra apporter, même dans l'expérience et dans la manière
qu'il avait, par exemple samedi, la moitié du vestiaire, ça ira,
voilà, hein. C'est ça. Mais il a un entraîneur qui le connaît bien, et je pense que Pellegrini, tu vois, saurait le gérer. Mais je suis d'accord avec toi, Fred, aussi, ouais, quel joueur, ça.
Moi, à Séville, pourtant, il n'est pas resté longtemps, mais c'était lumineux quand il était dedans, c'était lumineux, quoi. Voilà. Et c'est vraiment un type qui est passé à côté d'une carrière fabuleuse.